Cathy Bisraor est en ligne avec nous à Jérusalem. Bonsoir Cathy.
Bonsoir Bernard.
Cathy, on a beaucoup de choses à se dire ce soir. On va commencer peut-être par ce qui est le plus perturbant. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a accepté aujourd'hui qu'on ne libère que 8 Israéliens. Parce que le Hamas lui a dit, non mais il y avait 2 de trop hier, si j'ose dire, mais enfin bon, on est dans du marchandage là, donc on parle comme ça. Il y avait 2 de plus hier, et donc aujourd'hui il n'y aura que 8 libérés. Mais contre des prisonniers palestiniens. Mais j'aurais vous poser une question, Cathy. Et demain il va nous dire 6, le Hamas, après il va nous dire, je vous libère la famille Bibas. Vous n'allez pas dire non, parce que c'est un bébé, un enfant de 4 ans et la maman, vous attendez tous son retour, donc je n'aurai que 3 personnes. Parce que nous dire, hier il y en a eu 2 de trop, alors que le Hamas a libéré ses 2 otages pour faire plaisir aux Russes, qui sont très très loin d'être les amis de Netanyahou, et que Netanyahou dise oui, alors qu'il n'y a aucun mouvement populaire pour le pousser à dire oui. Je ne vois pas, moi. Moi, les seuls mouvements que je vois autour de moi, c'est des gens qui disent « j'espère qu'il ne va pas arrêter la guerre ». Ça pose quand même un problème. Et je voudrais vous poser la question sur votre intuition à vous. Netanyahou, il reprend ses vieux défauts, ses défauts qui disent que voilà, au bout d'un moment, allez, on va finir cette histoire en queue de poisson. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, quand vous avez vu que voilà, finalement, Hamas, il a dit « on ne tient pas les accords, on fait ce qu'on veut ».
Bernard, vous me posez tellement de questions à la fois que je vais essayer de vous répondre. D'abord au niveau factuel, d'accord, ce n'est pas 8, mais c'est 10, d'accord. Je ne sais pas si vous avez eu les dernières informations. En fin de compte, il y a eu des changements. Je comprends que vous n'avez pas eu peut-être les dernières
informations. Si, il y a les 2 Françaises qui sont dehors, là. Mais ça n'empêche pas que ce qui a été convenu ce matin, c'était 8.
Non, ce matin, c'était 8. Okay. Au fur et à mesure de, officiellement, ouais. On ne sait pas exactement tout ce qui se passe. Au fur et à mesure de la journée qui est passée, des négociations en parallèle ont été menées avec le chef.
Alors, excusez-moi, je vous interromps, mais quand même pour préciser mon propos, que les gens ne se disent pas, ah bon, il n'est pas au courant. À ce matin, à 7h, c'était 8, parce qu'il avait dit oui. Il a dit oui, ils ont failli repartir en guerre un quart d'heure avant 7h du matin. Et ce qui est très pénible, c'est ça. C'est de voir que Netanyahou, au bout d'un moment, ça finit toujours comme ça, les confrontations avec le Hamas. Toujours.
Regardez, Bernard. Laissons de côté l'histoire de 8 aujourd'hui. Donc c'est 10, ok. C'est vrai qu'il y a eu une évolution ce matin, c'est vrai que c'était 8 et au fur et à mesure il y a eu des évolutions. Et il faut savoir que Israël, et le porte-parole de Tzal a dit d'ailleurs qu'en fin de compte Israël n'avait jamais accepté le 8. Ça a été diffusé par les médias, d'accord. Mais en fin de compte, il y a eu des négociations qui étaient des négociations qui se menaient en même temps, si vous voulez, que le fait que le cessez-le-feu ne répondait pas. Mais je voudrais vous répondre peut-être plus en macro, plus en zoom out, disons, sur cette histoire. Regardez, à mon avis, faire un focus sur Netanyahou, ce n'est pas le sujet à mon avis aujourd'hui. Je pense qu'Israël vit une période, je crois que tous les clichés qu'on peut utiliser en fait ne sont pas des clichés parce que c'est la réalité. Une période qui a débuté le 7 octobre et qui est une période de l'histoire de l'État d'Israël qui est à la fois bouleversante, traumatisante, choquante. Je crois qu'on ne peut même pas trouver vraiment les termes. En hébreu, il y a un terme qui est très, très beau et que vous comprendrez, vous, Bernard, qui s'appelle « metaltel », ok. Et c'est exactement ce terme-là. « Metaltel », ça veut dire « secouer », ok, comme un tremblement de terre. Et c'est véritablement ça que vit Israël depuis le 7 octobre. Plus rien n'est en place, en fait. Tout est bouleversé. Tous les repères, tous les socles, si vous voulez, de la société israélienne, qui était notamment le socle de Tsahal, qu'on disait depuis la Shoah, il n'y a plus de problème, il y a Tsahal qui est là pour défendre les civils israéliens. Ce socle-là, cette croyance-là, ce ADN, si vous voulez, de la société israélienne, s'est écroulé le 7 octobre. Et en fin de compte, aujourd'hui, on est en plein dedans. On continue cette affaire avec le deuil terrible du 7 octobre, l'histoire des gens disparus, partis disparus, où est-ce qu'ils sont, on trouve des corps, des parties de corps, ensuite les soldats qui tombent, les prisonniers, et maintenant depuis une semaine, cette affaire qui est une affaire où les termes également, on ne les trouve pas, de la joie extrême, mais également de l'inquiétude extrême, comme ces listes Schindler qu'on vous annonce tous les soirs, qui c'est qui va être libéré, qui c'est qui ne va pas être libéré, je peux vous dire, la jeune fille qui est libérée ce soir, qui a 21 ans, est une jeune fille qui habite la ville dans laquelle moi j'habite. Il faut que vous voyez ce qui se passe dans cette ville, que tout le monde attendait. Aujourd'hui, vous avez les rues qui sont pleines depuis quelques heures de drapeaux israéliens de tous les jeunes de cette petite localité qui sont dehors en train d'attendre cette jeune fille qui pour l'instant arrivera à l'hôpital. Et donc, à mon avis, c'est réduire l'histoire, si vous me permettez, Bernard, de parler de l'histoire de Netanyahou. L'histoire, ce n'est pas Netanyahou. Israël est devant un dilemme qui est véritablement un dilemme qui est terrible. Mais Israël a fait le choix, okay, jusqu'à présent, d'essayer, et pour l'instant ça a marché pour quelques dizaines, d'essayer de sauver des enfants, d'essayer de sauver des femmes, des jeunes filles, des grands-mères, parce qu'Israël s'estime assez puissant pour pouvoir ensuite reprendre le fil de l'histoire, pour en plus
mais Cathy, on est mort à cause de ça.
Et donc, si vous
Cathy,
voulez, et donc, si Cathy, vous voulez, attendez,
ils nous ont tué 1200 Israéliens à cause de ça. On s'estime assez fort, et donc c'est pas grave si on a l'air ridicule, et c'est pas grave s'ils font ce qu'ils veulent. Attendez, c'est parce qu'on est tellement fort que de toute façon, on les voit s'entraîner, mais ils s'entraînent, c'est des conneries. Et ils ont tué 1200 personnes avec cette idée de
on s'estime assez fort. Je vous réponds à ça. Je vous réponds à ça. C'est exact, Bernard, que depuis le début de la libération des otages, depuis une semaine, d'accord, on a l'impression, c'est pas seulement l'impression, c'est la vérité, que le Hamas nous mène par le bout du nez, d'accord. Vous avez raison, c'est exactement ce qui se passe. C'est pas Israël, le Hamas mène par le bout du nez Netanyahou. Le Hamas mène par le bout du nez Israël. Mais je vous dis encore, ok, que non, c'est pas Netanyahou, c'est le chef d'état-major, c'est le numéro 1 du Mossad, c'est toute la direction israélienne, le cabinet de la sécurité qui a accepté, ok, de payer ce prix qui est un prix terrible au niveau médiatique même. Regardez la mise en scène que fait le Hamas lorsqu'il nous transfère ses poignées de main soi-disant et toute cette comédie, etc. Israël s'est dit, on est prêt à payer ce prix-là, ok, parce que on connaît, nous, les buts de notre guerre. D'abord, on va les éliminer. Au bout du compte, on va les éliminer. Je ne sais pas si ça prendra un mois, deux mois, un an ou deux ans. Je vous rappelle que Ben Laden, aux États-Unis, ça leur a pris 10 ans pour éliminer Ben Laden. Je vous assure que, à mon avis, Israël, ça leur prendra beaucoup moins pour éliminer le Hamas. Et d'un autre côté, libérer le plus possible. On sait bien que ça sera très compliqué, le plus possible le plus possible d'otages. Et donc, si vous voulez, d'un côté, oui, vous avez raison qu'on est mené par le bout du nez, mais c'est un prix qu'Israël a accepté pour tenter à sauver la vie de ces femmes et de ces enfants qu'on voit revenir au compte-gouttes depuis une semaine.
Ok, on va essayer l'option « à Dieu ne plaise », mais on va essayer l'option « le Hamas gagne ». Parce qu'elle existe, cette option, au risque de vous étonner, Catherine. Alors ça se passe comme ça. Donc là, maintenant, il va y avoir une nouvelle trêve, puis après encore une autre trêve, puis après, tout d'un coup, on va sentir la pression internationale qui va monter, qu'elle n'est pas aussi forte qu'on aurait pu le croire. Il y a encore un mois. Et tout d'un coup, Joe Biden dit « Mais moi-même, j'ai des problèmes au sein de mon propre parti. Et maintenant, il faut négocier. » C'est possible, ça? C'est pas arrivé? C'est impossible? Vous croyez que ça peut pas finir comme ça?
Je vais vous dire, si vous avez raison...
On est tous morts.
Si la description que vous faites, Chazé Khalila, okay, comme on dit en hébreu, se réalise, c'est une catastrophe pour l'État d'Israël. Parce que la guerre que l'on vit actuellement, ce n'est pas une guerre existentielle. D'accord, c'est pas l'existence de l'État d'Israël qui est en jeu, mais c'est l'essence de l'État d'Israël qui est en jeu et l'avenir de l'État d'Israël, peut-être pour les prochaines générations. Pourquoi? Parce que si, après le pogrom, le massacre du 7 octobre, qui était une Shoah de 24 heures, d'accord, si après ça, l'organisation responsable de ce pogrom continue à avoir le contrôle militaire et politique d'un territoire, à savoir le territoire de Gaza, ça veut dire que tous les autres ennemis d'Israël, okay, vont se dire « Ah, mais voilà la solution, okay, le Hezbollah, ils sont aux portes de l'État d'Israël, on entend depuis quelques heures des informations très inquiétantes qui viennent de la Jordanie, okay, qui auraient cru de la Jordanie, des informations inquiétantes également de ce côté-là, sans parler évidemment de l'Iran et des autres pays, etc. » Et donc, si vous voulez, j'ai envie de vous dire, c'est pas moi qui le dis, mais j'ai entendu beaucoup de dirigeants politiques dire, et de dirigeants militaires également, on n'a pas le choix de gagner cette guerre. Je ne sais pas, personne ne sait combien ça prendra de temps. Personne ne sait le prix que Israël va devoir payer pour gagner cette guerre. Mais au bout du compte, que ça prenne 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans, Israël doit faire disparaître le Hamas de Gaza.
C'est le mot « doit gagner le Hamas » qui excusez-moi, Cathy. D'ailleurs, Catherine, c'est pareil, Cathy.
Cathy.
C'est bien plus joli, Cathy. Ça me fait très plaisir de vous appeler Cathy depuis le temps.
Je m'appelle Cathy.
Ah, bon, j'ai toujours aimé ce prénom. Ben vous savez quoi d'ailleurs, dans une minute, laissez-moi 2 minutes, on voit ça, on en parle dans 2 minutes. Cathy, je vous pose ma question maintenant. Vous disiez tout à l'heure, mais on doit gagner Bernard, je vais vous montrer pourquoi on doit gagner. Boaz Bismuth, il nous a fait le même coup hier. Il nous a expliqué pendant 5 minutes pourquoi on devait gagner. Je ne vous demande pas si on doit gagner. Ça, cette histoire-là qu'il fallait partir en guerre et qu'il fallait la mener et qu'il fallait gagner, c'est pour le coup une conversation qui date d'il y a un mois. Ça y est, ça, c'est fait. Et tout le monde a dit, il y a un consensus en Israël. Même le gars qui était le plus shalom arshav durant toute sa vie, aujourd'hui, il pense qu'on doit faire la guerre et la gagner. La question, c'est peut-être la suivante. Est-ce que cette société israélienne qui, oui, donne ses enfants à l'armée, qui, oui, connaît ce genre de situation, est-ce qu'elle est encore, elle est en capacité de mener un combat long comme celui-ci, difficile, éprouvant, avec des otages? C'est ça la question. C'est pas est-ce qu'on doit le faire. La question, c'est est-ce que, comme on le sent depuis maintenant 2 ou 3 jours, je vais vous dire la vérité, on le sent pas de la rue, on le sent pas de vos voisins. Je suis certain que vos voisins dans la rue, ils sont presque écœurés. Ils disent, mais c'est pas vrai, on est en train de nous refaire le coup là maintenant. Moi, en tout cas, j'en entends beaucoup. Je vais même vous dire, c'est pas une révélation, parce que c'est des propos comme ça. J'ai entendu des militaires dire, si Netanyahou nous fait rentrer de Gaza, on se révolte, nous on reste. J'ai entendu ça de mes oreilles. Donc, il y a des gens qui se posent la question aujourd'hui, c'est ça la question, c'est pas est-ce qu'on doit le faire. La question, c'est est-ce qu'on est en capacité de le faire.
D'accord. La question, si vous voulez, vous m'avez posé la question, est-ce que le peuple israélien est en capacité de le faire, ok?
Ouais. Excusez-moi, et de nouveau encore Bibi et Gantz, oui, parce que c'est eux qui
disent. Est-ce que les dirigeants sont capables? Alors, au niveau du peuple, si vous m'aviez posé la question, Bernard, le 6 octobre, je vous aurais dit certainement pas. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a eu depuis 20 ans, depuis que le Hamas est au pouvoir, depuis 2009, il y a eu ce qu'on appelle des sévavim, c'est-à-dire des accrochages, ok, des opérations qui à chaque fois se sont terminées parce que tout le monde a dit « Ah, personne n'est capable d'aller perdre 100 soldats à Gaza ». Maintenant, depuis le 7 octobre, la réponse au niveau du peuple israélien, c'est oui, catégoriquement. Vous avez raison de dire que de gauche à droite, moi j'ai entendu des gens d'extrême gauche, d'ailleurs tous les gens du kibbutz Be'eri, etc., de toute cette zone, ceux qui ont été en grande majorité touchés, des kibbutz, hein, pas de la fête de la musique, mais des kibbutz, ce sont des gens qui sont situés à gauche-gauche de l'échiquier politique israélien. Tout l'échiquier politique israélien de gauche à droite, juifs, pas les arabes évidemment, mais de gauche à droite, vous disent aujourd'hui, oui, on est prêt à payer le prix le plus élevé possible. Maintenant, au niveau de la direction israélienne, est-ce que la direction israélienne, avec la pression américaine, avec ce qui se passe depuis une semaine qu'on est en train de se voir, est-ce que la direction israélienne va tenir le coup et va, oui, mener jusqu'au bout ce qu'elle-même répète tous les jours? Tous les jours, on entend Gantz, on entend Netanyahou dire la même chose. Notre but, c'est d'éliminer le Hamas. Moi, je vais vous répondre comme ça. Le dirigeant israélien qui n'appliquera pas ce qu'il a promis, à savoir éliminer le Hamas de la carte de Gaza, ces dirigeants-là, ils perdront le pouvoir. D'une manière ou d'une autre, ils perdront le pouvoir. Mais encore une fois, Bernard, à mon avis, lorsqu'on parle de vaincre le Hamas, il faut se placer dans le temps. Ce n'est pas une question de quelques semaines. Ce n'est pas une question de quelques semaines et c'est sûr que ça ne va pas être simple. Ce n'est pas une question qui va être réglée dans quelques semaines. C'est un combat qui va durer plusieurs mois, ou je ne sais pas exactement dans quelle direction va aller l'armée israélienne, mais ça va être un combat qui va être très très long et dur et douloureux, c'est clair. Mais encore une fois, et le peuple israélien et les dirigeants israéliens, aujourd'hui en tout cas, semblent véritablement en fusion, en unis pour aller jusqu'au bout de ce but. Maintenant, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Un des scénarios, j'ai entendu ça tout à l'heure et je pense que c'est un scénario qui est très intéressant et qui est développé de plus en plus, en sachant qu'il est possible que dans un premier temps, Israël se contente de garder le contrôle du nord de la bande de Gaza pour affaiblir progressivement le Hamas au sud. C'est également un scénario. Ce n'est pas obligé, si vous voulez, de mener des combats comme on les a menés au nord de Gaza pour arriver progressivement à éliminer le Hamas. Et donc, il y a plusieurs scénarios possibles. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut que prier que, oui, Etzal et les dirigeants israéliens trouvent le bon moyen, justement, d'éliminer le Hamas.
Alors déjà, oui, c'est sûr qu'il faut prier parce que, même, vous savez que même moi, des fois, je me demande si je suis en train de devenir dingue. Hein. Je vous fais une confidence, là, Cathy. Que je sois en train de vous poser la question, de vous dire oui, mais non, mais j'espère qu'on ne va pas donner trop d'importance aux otages parce qu'il faut absolument qu'on fasse la guerre. J'aurais jamais cru que je prononcerais une phrase pareille de toute ma vie. Des fois, je me dis, mais Bernard, il faut que tu redescendes sur terre, là. Tu es complètement. Je fais comme tous les Israéliens. J'ai une position le matin, une autre à midi, une autre le soir. C'est très difficile de garder sa feuille de route et ses esprits. Mais vous nous avez dit tout à l'heure, oui, enfin, moi, je pense que toute l'idée. Vous avez dit, mais bien sûr qu'on peut le faire. Je crois que toute cette histoire-là qu'on vit aujourd'hui, c'est. Mais non, ils feront jamais ça. Voilà. C'est le résumé. C'est, on peut pas l'écrire parce qu'il faut le prononcer. Mais non, franchement, ils font. Le 6 octobre au soir, un gars du Shin Bet va voir, je sais pas qui est responsable de la sécurité, il lui dit, vous savez, demain ils vont vous envahir et ils vont vous tuer 1200 personnes. Il fait, mais non, qu'est-ce que je me raconte? Voilà ce qui s'est passé. Mais je vais vous donner un autre exemple, Cathy. On voit aujourd'hui, tout le monde est suffoqué de voir les Israéliens qui sont libérés, c'est quasiment embrasser les ravisseurs. D'abord, ça a commencé avec des mouvements de main, allez, au revoir. Bon, hier soir, les deux femmes russes, c'est des grands sourires. Et pourquoi on croit toujours que les gens du Hamas, c'est des idiots? Pourquoi personne s'est posé la question qu'ils sont intelligents, qu'il y a quelqu'un qu'on leur a dit, voilà, le gars qui va les raccompagner, il va être le good guy, il va parler couramment hébreu, il va faire le travail sérieusement. Parce que on pense aux images qui vont passer le soir sur les télévisions dans le monde, aux États-Unis, en France. On est en train d'en parler, etc. Pourquoi on n'imagine jamais? Pourquoi finalement, au fond de nous-mêmes, on n'a pas intégré qu'on avait un adversaire qui pouvait ne pas être totalement bête? Parce que c'est des gens qui viennent du bled. Alors on se dit, mais non, mais il n'y a pas d'éducation, lui, il va rien nous faire. Pourquoi on continue de réfléchir comme si on était face à des blédards? Et que c'est pas possible qu'on perde. Moi, je le souhaite pas, mais c'est pas possible qu'on soit intelligent. Voilà la question. Pourquoi on continue comme ça, Cathy?
D'abord, regardez, je pense que en Israël aujourd'hui, d'accord, la grande majorité non seulement des stratèges israéliens, mais d'Israéliens, ils sont loin de dire que le Hamas, ce sont des bêtes ou des idiots, tout ce que vous voulez comme terminologie. Bien au contraire, ils ont été plus intelligents, plus perfides, plus cyniques, plus stratèges que nous, du 7 octobre jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous avez raison de donner cet exemple, qui est un exemple médiatique de la mise en scène qu'ils font lorsqu'ils demandent aux enfants de leur dire bonjour, de leur serrer la main, de leur dire bonjour, etc., etc. Et toute cette mise en scène. Ça prouve que tout est organisé, tout est précis, et on a affaire à un ennemi qui est un ennemi qui n'a pas la force militaire que l'on a, qui n'a pas non plus la force morale, évidemment. Mais qui est un ennemi qui utilise, comme toute organisation terroriste, des éléments et des moyens qui peuvent être dangereux et meurtriers. On l'a vu le 7 octobre et on va le voir. Malheureusement, on risque encore de le voir. Okay. Maintenant, lorsque on dit, j'ai pas dit que Israël gagnera à coup sûr, j'espère. Okay, mais ce que je veux dire, c'est que Israël aujourd'hui ne minimise pas, à mon avis, l'armée israélienne est loin de minimiser la force stratégique, okay, du Hamas et d'un certain côté également la force militaire. Mais regardez ce qui s'est passé dans le nord de la bande de Gaza. Dans les 15 premiers jours de la guerre, il y a eu tout de même une prise de contrôle du terrain, du territoire de Gaza, qui a été beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus rapide que ce que l'on pensait. Donc il ne faut pas, si vous voulez, non plus maximiser la force militaire du Hamas. Mais il y a une force, en effet, qui existe et que Tsahal devra trouver. Il faut espérer que Tsahal, qui a fait la guerre des 6 jours, qui a fait la guerre d'indépendance, qui a fait Entebbe, saura également trouver aujourd'hui des stratagèmes, des moyens pour faire face à tout ce que le Hamas va tenter de préparer pour essayer de neutraliser sa défaite et de neutraliser les opérations israéliennes. Et je vais vous dire, d'un côté, en Israël, vous savez, vous-même, vous avez dit, je ne sais plus comment je pense, le matin je pense quelque chose, après je pense autre chose. C'est vraiment le terme que je vous ai utilisé, de métal-tel, okay, de tremblement, de comme si, vous voulez, on prend le peuple israélien, les Israéliens et le peuple juif, hein, c'est la même chose, et on les secoue dans une bouteille, et le matin ils sont en bas, le soir ils sont en haut, ils ne savent même plus où ils sont. On vit exactement ça, parce que lorsque d'un côté, vous avez le choix, soit de gagner, de vaincre le Hamas, ou de libérer des otages, ce sont des dilemmes qui sont terribles. Mais je vous répète encore que l'affaire de libération des otages, qui donne une impression que le Hamas a le vent en poupe, ou a, si vous voulez, le contrôle de la situation, c'est-à-dire que ça ne nous leurre pas. Okay, Israël a volontairement choisi de payer le prix, parce qu'Israël savait que ça allait, qu'on allait voir ces images, etc., pour justement pouvoir sauver des vies humaines, parce que comme vous le savez, c'est dans l'ADN du peuple juif. Regardez, en Ukraine, en Russie, vous avez des centaines de prisonniers. Qui c'est qui en parle? Il y a également des enfants prisonniers. Qui c'est qui en parle? Personne. En Israël, Israël ne peut pas dormir. Israël ne peut pas respirer. Israël, le peuple juif et les Israéliens, l'ensemble du monde juif, ne peut pas dormir, ne peut pas respirer si un soldat, un enfant, une femme est otage aux mains du Hamas. Point à la ligne. Et donc Israël n'avait pas le choix, si vous voulez, d'aller dans cette direction-là.
Ah, mais c'est très possible que dans quelques semaines seulement. Je vais me regarder, comme je vous disais tout à l'heure, je me disais, mais Bernard, c'est devenu dingue. Tu parlais de Julie, de Emma, de Abigail. Mais bien sûr qu'il fallait tout arrêter le temps qu'elle sorte. C'est très possible, je vous le dis franchement. Cathy Bisraor, je vous remercie d'avoir été notre invité. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais parce que le temps court et c'est comme ça. Mais un jour aussi, vous nous disiez ce que vous pensez de la hardoute. Parce que c'est pas sûr du tout que cette hardoute, elle va durer. Ça, c'est encore un autre point, mais je vais pas vous relancer maintenant.
Alors, vous voyez, je vous dis quand même que sur ça, on est d'accord. OK? Il y a une hardoute, une unité qui est incroyable, spectaculaire aujourd'hui en Israël. Et je suis pas sûr non plus que ça va durer sur le long terme. Alors, sur ça, on est d'accord.
Voilà. Chacun va retrouver son chemin et ça, on va recommencer à mal se parler à la Knesset. Et pour le coup, ils vont recommencer à nous faire honte, puisque j'ai utilisé le mot tout à l'heure. Cathy Bisraor, je vous remercie.
Bonsoir, bonsoir Bernard. Vous.